Elle se trouvait au premier plan d'une vaste salle à manger, dont la table était encore mise, et derrière cette table, un jeune homme, Jean-Louis certainement, fumait sa pipe et lisait un journal sans paraître se soucier des deux mégères. L'une, maigre et haute, était habillée de soie prune et portait une chevelure à boucles trop blonde pour le visage flétri autour duquel elle tourbillonnait. L'autre, plus maigre encore, mais toute petite, se trémoussait dans une robe de chambre en percale et montrait une figure rousse et fardée que la colère enflammait.
« Une teigne que vous êtes, méchante comme pas une, et voleuse par-dessus le marché. Moi, voleuse ? Et le coup des canards à 10 francs pièce, c'est pas du vol, ça ? Taisez-vous donc, gredine, le billet de 50 sur ma toilette, qu'est-ce qu'il avait chipé ? Oh, Seigneur Dieu, vivre avec une pareille saleté ! »
L'autre bondit sous l'outrage, et apostrophant le jeune homme,
« Eh bien quoi, Jean, tu la laisses donc m'insulter, ta rosse d'Ormival ?»
Et la grande repartit furieuse.
« Rosse, mais tu l'entends, Louis ? La voilà ta vaubois avec ses airs de vieille cocotte, mais fais-la donc taire !»«
Fichez-moi la paix, toutes deux, vieille folle !» Du coup, elles se retournèrent contre lui et l'accablèrent d'injures. Les insultes pleuvaient sur lui. Il se boucha les oreilles et se démena devant la table comme un homme à bout de patience et qui se retient pour ne pas tomber sur l'adversaire à bras raccourcis. Rénine dit tout bas « Qu'est-ce que je vous avais annoncé ? À Paris, le drame, ici, la comédie. Entrons. »
« Au milieu de ces gens déchaînés ?»
protesta la jeune femme.
« Justement. Cependant, « cher ami, nous ne sommes pas venus ici pour espionner, mais pour agir. Sans masque, on les verra mieux. »
Et d'un pas résolu, il marcha vers la porte, l'ouvrit et entra dans la salle, suivi d'Hortense. Son apparition provoqua de la stupeur. Les deux femmes s'interrompirent, toutes rouges et frémissantes de colère. Jean-Louis se leva, très pâle. Profitant du désarroi général, Rénine prit vivement la parole. « Permettez-moi de me présenter. Le prince Rénine, Madame Daniel. Nous sommes des amis de Mademoiselle Geneviève Aymard, et c'est en son nom que nous venons. Voici une lettre écrite par elle et qui vous est adressée, monsieur. » Jean-Louis, déjà déconcerté par l'irruption de ses nouveaux venus, perdit contenance en entendant le nom de Geneviève. Sans trop savoir ce qu'il disait, et pour répondre au procédé courtois de Rénine, il voulut à son tour faire la présentation et laissa tomber cette phrase ahurissante. « Madame d'Ormival, ma mère. Madame Vaubois, ma mère. » Il y eut un silence assez long. Rénine salua. Hortense ne savait pas à qui tendre d'abord la main. À la mère Madame d'Ormival ou à la mère Madame Vaubois. Mais il se passa ceci, que Madame d'Ormival et que Madame Vaubois, toutes deux en même temps, essayèrent de saisir la lettre que Rénine tendait à Jean-Louis, et que toutes deux à la fois marmottaient
« Mademoiselle Aymard, elle a de l'aplomb,
elle en a de l'audace !»
Alors Jean-Louis, recouvrant quelque sang-froid, empoigna sa mère d'Ormival et la fit sortir par la gauche, puis sa mère Vaubois et la fit sortir par la droite. Et revenant vers les deux visiteurs, il décacheta l'enveloppe et lut à demi-voix.
« Jean-Louis, je vous prie de recevoir le porteur de cette lettre. Ayez confiance en lui. Je vous aime, Geneviève. »
C'était un homme un peu lourd d'aspect, dont le visage très brun, maigre et osseux, avait bien cette expression de mélancolie et de détresse que le père de Geneviève avait signalée. Vraiment, la souffrance était visible en chacun des traits tourmentés, comme dans ses yeux douloureux et inquiets. Il répéta plusieurs fois le nom de Geneviève, tout en regardant autour de lui distraitement. Il semblait chercher une ligne de conduite. Il semblait sur le point de donner des explications, mais il ne trouvait rien. Cette intervention l'avait désemparé, comme une attaque imprévue à laquelle il ne savait par quelle riposte répondre. Rénine sentit qu'à la première sommation, l'adversaire capitulerait. Il avait tellement lutté depuis quelques mois et tellement souffert dans la retraite et dans le silence opiniâtre où il s'était réfugié qu'il ne songeait pas à se défendre. Le pouvait-il d'ailleurs, maintenant qu'on avait pénétré dans l'intimité de son abominable existence? Rénine l'attaqua brusquement. « Monsieur, deux fois déjà depuis la rupture, Geneviève Aymard a voulu se tuer. Je viens vous demander si sa mort inévitable et prochaine doit être le dénouement de votre amour. » Jean-Louis s'écroula sur une chaise et enfouit sa figure entre ses mains.
« Oh, oh, elle a voulu se tuer. Oh, est-ce possible ?»
Rénine ne lui laissa point de répit. Il lui frappa l'épaule et se penchant, « Soyez persuadé, monsieur, que vous avez intérêt à vous confier à nous. Nous sommes les amis de Geneviève Aymard. Nous lui avons promis notre assistance. N'hésitez pas, je vous en supplie. » Le jeune homme releva la tête.
« Puis-je hésiter, après ce que vous m'avez révélé ? Le puis-je, après ce que vous venez d'entendre ici tout à l'heure ? Mon existence, vous la devinez. Que me reste-t-il à vous dire pour que vous la connaissiez tout entière et pour que vous en rapportiez le secret à Geneviève ? Ce secret ridicule et redoutable qui lui fera comprendre pourquoi je ne suis pas retourné près d'elle et pourquoi je n'ai pas le droit d'y retourner. »
Rénine jeta un coup d'œil à Hortense. 24 heures après les aveux du père de Geneviève, il obtenait par les mêmes procédés les confidences de Jean-Louis. Toute l'aventure apparaissait confessée par les deux hommes. Jean-Louis avança un fauteuil pour Hortense. Rénine et lui s'assirent, et il prononça, sans qu'il fût besoin de le prier davantage, et comme s'il éprouvait même quelque soulagement à se confesser,
« Ne soyez pas trop étonné, monsieur, si je raconte mon histoire avec quelque ironie, car en vérité, c'est une histoire franchement comique qui ne peut manquer de vous faire rire. Le destin s'amuse souvent à jouer de ces tours imbéciles, de ces farces énormes que l'on dirait imaginées par un cerveau de fou ou par un ivrogne. Jugez-en. Il y a 27 ans, le manoir d'El Seven, composé à cette époque du seul corps de logis principal, était habité par un vieux médecin qui, pour augmenter ses modiques ressources, recevait parfois un ou deux pensionnaires. C'est ainsi qu'une année, Madame d'Ormival passa ici l'été et Madame Vaubois l'été suivant. Or, ces deux dames, qui ne se connaissaient pas d'ailleurs, dont l'une était mariée à un capitaine au long cours breton, et l'autre, un voyageur de commerce vendéen, perdirent en même temps leur mari, et cela à une époque où toutes deux étaient enceintes. Et comme elles demeuraient à la campagne, dans des endroits éloignés de tout centre, elles écrivirent au docteur qu'elles viendraient chez lui pour y faire leur couche. Il accepta. Elles arrivèrent presque en même temps, à l'automne. Deux petites chambres situées derrière cette salle les attendaient. Le docteur avait engagé une garde qui couchait ici même. Tout allait pour le mieux. Ces dames achevaient les layettes et s'entendaient parfaitement. Résolues à n'avoir que des fils, leur avaient choisi ces noms, Jean et Louis. Or, un soir, le docteur, appelé en consultation, partit dans son cabriolet avec le domestique en annonçant qu'il ne pourrait revenir que le lendemain. Le maître absent, une fillette qui servait de bonne s'en alla rejoindre son amoureux. Autant de hasards dont le destin profita avec une méchanceté diabolique. Vers minuit, Madame d'Ormival ressentit les premières douleurs. La garde, Mademoiselle Boussignol, laquelle était un peu sage-femme, ne perdit pas la tête. Mais une heure après, ce fut le tour de Madame Vaubois. Et le drame, disons plutôt, la tragicomédie se déroula parmi les cris et les gémissements des deux patientes,
dans l'agitation effarée de la garde qui courait de l'une à l'autre, cela montait, ouvrait la fenêtre pour appeler le docteur, ou se jetait à genoux pour implorer la Providence. La première, Madame Vaubois, mit au monde un garçon que Mademoiselle Boussignol apporta en hâte dans cette salle, qu'elle soigna, lava et déposa au creux du berceau qui lui était réservé. Mais Madame Dormival poussait des hurlements de douleur, et la garde dut s'employer aussi auprès d'elle, tandis que le nouveau-né s'épuisait en cris de bête qu'on égorge, et que la mère, terrifiée, clouée au lit de sa chambre, s'évanouissait. Ajoutez à cela toutes les misères du désordre et de l'obscurité, l'unique lampe où il n'y a plus de pétrole, les bougies qui s'éteignent, le bruit du vent, le piaulement des chouettes. Et vous comprendrez que Mademoiselle Boussignol était folle d'épouvante. Enfin, à 5 heures, après des incidents tragiques, elle apportait ici le petit Dormival, un garçon également. Le soignait, le lavait, l'étendait dans son berceau, et il repartait au secours de Madame Vaubois, qui, revenue à elle, vociférait, puis de Madame Dormival, qui à son tour perdait connaissance. Et lorsque Mademoiselle Boussignol, débarrassée des deux mères, mais ivre de fatigue, le cerveau tumultueux, retourna près des nouveau-nés, elle s'aperçut avec horreur qu'elle les avait enveloppés avec des langes semblables, chaussés avec des chaussons de laine identiques, et couchés tous deux côte à côte dans le même berceau, de sorte qu'on ne pouvait savoir qui était Louis Dormival et qui était Jean Vaubois. En outre, comme elle soulevait l'un d'eux, elle constata qu'il avait les mains glacées et qu'il ne respirait plus. Il était mort. Comment s'appelait celui-là? Et comment celui qui survivait? 3 heures plus tard, le docteur trouvait les deux femmes éperdues et délirantes, et la garde se traînant devant leur lit et implorant son pardon. Tour à tour, elle m'offrait à leurs caresses, moi, le survivant. Et tour à tour, elle m'embrassait et me repoussait. Car enfin, qui étais-je? Le fils de la veuve Dormival et de feu le capitaine au long cours, ou le fils de Madame Vaubois et de feu le voyageur de commerce? Aucun indice ne permettait de se prononcer. Le docteur supplia chacune de mes deux mères de sacrifier ses droits, du moins au point de vue légal, afin que je puisse m'appeler Louis Dormival ou Jean Vaubois. Elles s'y refusèrent énergiquement.
Pourquoi Jean Vaubois si c'est un Dormival? Et pourquoi Louis Dormival, si c'est un Jean Vaubois?
Je fus déclaré sous le nom de Jean-Louis, fils de père et de mère inconnus.